On va parler d'une autre actualité. On va parler de la dangerosité de Mohamed Amra. Est-ce qu'elle a été sous-estimée? On va en parler dans un instant. Nos invités, Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Bonsoir à vous. Laurent, on est avec Joachim Pueyo. Merci d'être avec nous. Ancien directeur des prisons de Fresnes et Fleury-Mérogis et maire PS d'Alençon. Bienvenue sur ce plateau. Cédric Logelin, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole du ministère de la Justice. Mourad Batik, vous êtes avocat pénaliste. Bienvenue à tous les quatre. On se posait donc la question, la dangerosité de Mohamed Amra a-t-elle été sous-estimée? Éric Dupond-Moretti annonce avoir confié une enquête à l'inspection générale de la justice. Mohamed Amra, c'est ce détenu qui s'est évalé lors d'un guet-apens ultra-violent qui a causé la mort de deux agents pénitentiaires. Alors, est-ce qu'on a les propos d'Éric Dupond-Moretti? On ne l'a pas, on l'entendra un petit peu plus tard. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, Samis Faxi va faire son entrée sur le plateau. Pourquoi le garde des Sceaux, Samis Faxi, a-t-il décidé de confier l'enquête à l'inspection générale de la justice? Rappelez-nous un petit peu les faits, Samis.
Eh bien, parce que les informations, en tout cas les révélations faites par BFM TV et par nos confrères sont édifiantes, notamment sur ses conditions de détention d'apport. On apprend que sa cellule à Mohamed Amra était sonorisée. Les écoutes ont révélé sa très grande dangerosité. Il avait notamment accès à des téléphones portables dernier cri. On parle de 9 téléphones portables qui lui ont été livrés grâce justement à des personnes, à des jetteurs qui lançaient des colis à travers, par-dessus en tout cas le mur de l'enceinte pénitentiaire. On parle de 9 téléphones portables. Il s'est également fait livrer du cannabis à de nombreuses reprises. Il allait même jusqu'à surfer sur les sites de rencontres. Il communiquait via ses messageries cryptées type Telegram. Dans une synthèse liée à ses écoutes, on apprend que Mohamed Amra, je cite, se révèle capable d'une extrême duplicité, élevant la trahison au rang d'art, le tout en recourant aux techniques d'enlèvement. Illustration, justement, toujours grâce aux informations du service police-justice de BFM TV, il dirigeait depuis sa cellule des guet-apens à l'encontre des trafiquants rivaux pour leur voler leurs marchandises grâce notamment à des armes de guerre. Il avait il avait tenté d'acheter des fusils d'assaut depuis sa cellule. Bref, ce sont tous ces éléments qui relèvent du grand banditisme. Et pourquoi n'a-t-il pas été plus surveillé? C'est toute la question qui se pose et c'est cette question à laquelle l'enquête menée, en tout cas demandée par le garde des Sceaux, devra répondre.
Et c'est la question qu'on va se poser, nous, en plateau. Merci beaucoup, Samis Faxi. Je vous lis ce qu'a dit Éric Dupond-Moretti aujourd'hui. J'ai la ferme intention de faire toute la lumière sur la prise en charge du détenu Mohamed Amra, et notamment en ce qui concerne le partage d'informations. J'ai découvert dans la presse un certain nombre d'éléments concernant le détenu et qui font état d'une dangerosité certaine qui ne semblait pas avoir été prise en considération. Cédric Logelin, ça veut dire quoi quand il dit qu'il annonce avoir confié une enquête à l'inspection générale de la justice? De quoi il s'agit?
Alors, comme vous l'avez dit, comme le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti l'a dit aujourd'hui, l'objectif est de faire toute la lumière sur la prise en charge du détenu. Ça va être, par exemple, répondre aux questions. Comment l'information a été transmise? À qui est-ce qu'elle a été transmise? Est-ce qu'elle a été transmise en temps utile? Est-ce que les textes ont été respectés? Est-ce qu'il faut faire évoluer le cadre légal de transmission de ces informations?
Parlez donc des écoutes téléphoniques au sein de la cellule et du fait que la cellule a été sonorisée. C'est ça, ces informations qui n'ont pas été transmises?
Ce sera les questions qui seront posées aux inspecteurs. Je voudrais rappeler qu'il s'agit d'une inspection de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser aux décisions juridictionnelles qui ont été rendues par les magistrats. On va s'intéresser à la prise en charge du détenu. Et est-ce que la dangerosité a été correctement évaluée? Est-ce que les informations relatives à la dangerosité ont été transmises en temps utile? À qui? C'est ce type de questions auxquelles devront répondre les inspecteurs.
On a donc retrouvé l'intervention d'Éric Dupond-Moretti. On écoute tout de suite le garde des Sceaux.
Comme vous, monsieur le sénateur, j'ai découvert dans la presse un certain nombre d'éléments concernant le détenu Amra qui font état d'une dangerosité certaine qui ne semblait pas avoir été prise en considération. J'ai la ferme intention de faire toute la lumière sur la prise en charge du détenu Amra, et notamment en ce qui concerne le partage d'informations. Et c'est pourquoi j'ai ordonné une inspection confiée à l'inspection générale de la justice. Mais de manière plus générale, et bien sûr, je partage votre interrogation sur, au fond, l'adaptation de notre modèle carcéral à ces détenus particulièrement violents et sans aucune limite.
C'est le sénateur Union Centriste du Nord. Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez posé la question au garde des Sceaux. Il était essentiel de la poser, urgent de la poser, cette question.
Parce que quand on a lu ces fameuses écoutes téléphoniques, on a vu qu'il y avait un problème majeur qui faisait lien d'ailleurs avec le rapport du Sénat sur le narcotrafic. On connaissait déjà la surpopulation dans les prisons, la loi des caïds, la peur au ventre des surveillants et puis la violence. Mais là, non seulement il y a la présence de narcotrafiquants, mais pire encore, il y a l'organisation. C'est bien ça, hein, ce à quoi se livre Mohamed Amra, c'est l'organisation du narcotrafic à partir de nos prisons. Et donc là, c'est un phénomène dangereux, inacceptable. On n'y est pas, mais on s'en rapproche d'une forme de sud-américanisation de nos prisons. Et bien évidemment, ça mérite une réaction du ministre qui a essayé de trouver une réponse, mais visiblement, il n'avait pas pris la mesure de la gravité du sujet, si j'en crois sa réponse.
Donc il y a clairement des erreurs qui ont été commises de la part de la police notamment, qui n'a pas transmis les informations qui auraient permis de mieux comprendre le degré de dangerosité de cet individu.
Ben, je pense qu'il y a à la fois un problème de transmission d'informations, mais aussi, je pense, une sous-estimation de la gravité du problème. À partir du moment où de la prison, un caïd de la prison, qui est sous écoute, organise le trafic de drogue, ça doit quand même interpeller. Or, visiblement, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que cet événement, en ayant une pensée pour les deux personnes qui sont tragiquement décédées, mais cet événement va faire date. Il y a un avant et il y a un après Mohamed Amra. Je pense que l'organisation même du trafic de drogue à l'intérieur des prisons, c'est un phénomène dangereux, inacceptable, et c'est en quelque sorte, comme on dit, comme certains disent, les prisons sont le miroir de notre société, et donc ça doit nous mobiliser immédiatement, et ça doit mobiliser la totalité des pouvoirs publics, et en premier lieu, le garde des Sceaux.
Merci beaucoup Olivier. Vous aviez une question, je crois, Géraldine.
Mais inacceptable. Or moi je lis dans le journal le mois dernier, au mois d'avril, la chancellerie préparait justement un décret pour mettre en place des alternatives aux poursuites pour toutes les activités illicites commises en prison et notamment le trafic de drogue, que finalement on allait pouvoir remplacer les peines par privé de sport ou privé de télévision. Alors est-ce que c'est vrai ce que j'ai lu? J'ai lu ça dans les
C'est pas l'organisation d'un trafic de stupéfiants qui va être sanctionné par la privation du sport en prison.
Alors, ce projet de décret qui concerne les alternatives aux poursuites disciplinaires ne concerne absolument pas le trafic de stupéfiants. Et je suis content de pouvoir clarifier cela aujourd'hui avec vous parce que cela est faux. D'accord. Quelqu'un qui se fait attraper avec des stupéfiants fera l'objet de poursuites disciplinaires. Mais un signalement sera adressé au parquet et ce décret vise à ajouter de nouveaux outils pour lutter contre l'impunité et absolument pas balayer les détenus qui fument. Ce n'est pas le cas du tout. Et merci d'avoir posé la question.
Là, c'est pas ça, parce que c'est même pas de faire rentrer ou d'utiliser de la drogue, même si on a vu qu'il consommait du cannabis. C'est ce qui est choquant, c'est pas ça. C'est que il continue à organiser un trafic à l'extérieur de la prison depuis sa cellule. Et ça, évidemment, ce sont des faits autonomes qui peuvent faire l'objet de poursuites autonomes. Et moi, je pense que tout simplement, je sais pas si on a plus d'informations, mais si sa cellule est sonorisée, c'est qu'elle l'est dans le cadre d'une enquête, par hypothèse, d'une instruction sur ces faits de trafic de stupéfiants autonomes. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'alerte pas le directeur de la prison, le ministère de la Justice et qui sais-je encore? Parce qu'on fait cette enquête pour déterminer quel trafic est en train d'organiser Monsieur Amra, avec qui, à quel endroit, pour le coincer après. Donc forcément, si vous sonorisez quelqu'un pendant qu'il est en train de commettre son infraction, pendant le temps que vous faites votre enquête, vous le laissez commettre son infraction. Alors, on peut dire qu'on change les règles et qu'en fait, maintenant, dès qu'on entend le mot cannabis, boum, on interpelle tout de suite. Mais dans ce cas-là, on se prive de la possibilité de faire une vraie enquête.
Enfin, c'est là, pas c'est le mot cannabis, là. Il parlait d'organiser des enlèvements. Enfin, il y a une gradation quand même.
Mais tout ça, après, qu'est-ce que ça fait? Ça devient un dossier d'instruction dans le cadre duquel la personne qui doit répondre de ces faits et sanctionné par la justice.
Peut-être, oui. Effectivement, c'est une bonne question et je vais vous la poser, mais peut-être qu'on peut rappeler donc, oui, la cellule était sonorisée, Laurent Vallier, Amra, et qu'est-ce qu'on avait découvert,
oui, Amra, il faut expliquer un peu l'enchaînement. Il est incarcéré à la santé en janvier 2022. Et en juin 2022, il y a un assassinat d'un trafiquant de drogue, d'un livreur de drogue à Marseille. Il se trouve, par le plus grand des hasards, que la PJ de Marseille avait placé une balise sur cette équipe. C'est l'équipe dite des Blacks. Et donc, en réalité, la police et la BRI, ce soir-là, cette nuit-là, ils surveillent, ils sont en surveillance. Alors, ils sont assez loin, ils n'assistent pas à l'assassinat, mais ils sont en surveillance. Donc, quand deux jours plus tard, le corps calciné avec une balle dans la tête du livreur de cocaïne de Dreux, de cannabis de Dreux, est découvert au bagne, les policiers y remontent très vite sur l'équipe dite des Blacks. Ils vont mettre un an avant d'attraper, enfin de confondre Amra. Pendant cette année-là, Amra, il est à la santé, et là, ils ont sonorisé. Alors, c'est pour ça, quand le ministre dit qu'il découvre dans la presse, on se pince un peu parce que
il y a pas beaucoup d'informations qui reviennent au ministre de la justice,
prison de la santé, la surveillance pénitentiaire, la police, le juge de Marseille en charge de tout ça, ils mettent un an pour enquêter sur Amra. En septembre, ils le mettent en examen en septembre 2023. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que le soir du meurtre de Bagne, Amra, non seulement il avait téléguidé toute l'opération puisque c'est lui qui envoie ses deux tueurs d'Evreux à Marseille faire le coup et tuer le livreur, Amra, il est en direct avec eux au téléphone. Ils ont pas un téléphone, ils ont un boîtier Wi-Fi qui leur permet d'abord de déjouer les surveillances pendant tout le trajet où ils vont à Marseille. Amra, depuis la prison de la santé, pendant toute la nuit, il téléguide sa petite copine de Marseille à qui il a demandé d'aller trouver un Airbnb pour loger les deux tueurs. L'Airbnb est pas suffisamment discret, donc il trouve dans la nuit un autre appartement. Amra est en direct, en contact avec ses deux tueurs toute la soirée. Alors ça, les policiers, dans l'année qui suivent l'enquête pendant sa détention à la santé, ils ont ces fameuses écoutes où ils voient qu'Amra, non seulement il téléguide des trafics de drogue, ces trafics en tout genre, mais Amra, il téléguide d'autres opérations du même genre. Donc depuis septembre 2023, la juge d'instruction de Marseille qui demande à la prison des Baumettes de placer Amra à l'isolement, la juge d'instruction, le JLD, le parquet de Marseille, la PJ de Marseille et l'OCLO, le service spécialisé de la PJ parisienne, ils savent tous parfaitement qui est Amra. Amra est quelqu'un qui est un trafiquant de drogue, un grossiste de la région normande et qui est capable de téléguider des trafics importants et au moins un assassinat.
Et ça, Éric Dupond-Moretti dit, j'ai découvert dans la presse mercredi dernier.
Il
n'y
a aucune remontée d'informations sur des affaires en cours qui sont couvertes par le secret de l'instruction, qui parviennent au ministre de la Justice, qui, comme il l'a rappelé aujourd'hui devant les sénateurs, a découvert, comme vous, comme nous, dans la presse, eh bien, le contenu des écoutes qui sont toujours couvertes par le secret de l'instruction. Et d'où cette réactivité avec cette inspection qui a été ordonnée aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on puisse... reprocher un manque de réactivité alors que les informations ont été diffusées il y a quelques jours seulement.
Vous confirmez ça,
oui,
Joachim
Fillon? Oui, je confirme. En réalité,
ça a pu ne pas remonter au ministère de la Justice.
Quand un juge d'instruction demande de sonoriser une cellule, bien sûr, il y a l'administration pénitentiaire met les moyens pour sonoriser. Bon, ensuite, on peut rendre compte à la direction interrégionale, mais ce n'est pas évident que ça remonte ensuite au niveau de la chancellerie. Parce qu'il y a quand même pas mal de cas qui peuvent se présenter de la même manière. Le sujet, il est simple. Si on a sonorisé cette cellule, est-ce que ça voulait dire qu'on savait qu'il avait des portables? C'est une question qu'on doit se poser, alors oui, que les portables sont strictement interdits en prison. Et ça rentre, on le sait très bien, par plusieurs méthodes. Il n'y a pas que la projection. Il y a les parloirs. Il y a également, malheureusement, des complices à l'intérieur des prisons, parce qu'il y avait
quand même la corruption.
Voilà, il y avait pas mal de portables. Et on a toujours dit les portables, c'est excessivement dangereux. Vous vous souvenez quand même qu'il y a eu un contrôleur général des lieux de privation de liberté qui avait proposé d'autoriser les portables en prison. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Ça avait fait un débat. Bon, dans la mesure où les détenus peuvent téléphoner avec effectivement des cabines téléphoniques qui sont écoutées, le sujet des portables, il n'existe plus. On doit renforcer les brouilleurs, on doit renforcer la sécurité, parce que là, dans ce cas de figure, Il y a un problème d'information. Si effectivement l'autorité judiciaire ou la police connaissait effectivement l'évaluation de ce détenu qui était quand même dangereux, peut-être qu'on aurait évalué différemment l'escorte pour transférer le détenu. Donc, on voit très bien que, si vous voulez, en France, moi je le dis, je suis un élu également, il faut absolument qu'on décloisonne quelquefois, sans trahir le secret, bien sûr, de l'instruction. Mais il y a des partages d'informations qu'on a du mal à avoir. On le voit également dans les cités. Hein, chacun travaille de son côté. Et puis, quand il faut partager des informations, eh bien, c'est difficile. Et là, on voit que c'est essentiel. Parce que lorsqu'un détenu rentre en prison, généralement, il est pendant une semaine, il est à l'accueil pendant 8 jours. On l'évalue. On évalue sa psychologie, son comportement, sa dangerosité. Là, a priori, il n'était pas considéré. Enfin, on attendra le rapport de l'inspection générale. Il n'était pas considéré comme un détenu très dangereux.
Mais quand ?
C'était.
À quel moment ?
Donc, mais quand on apprend effectivement qu'il avait 6 portables, qu'il était...
Je m'arrête là-dessus quand même, juste un instant. Je rappelle que vous êtes ancien directeur des prisons de Fresnes.
Je suis étonné qu'on découvre 6 portables, parce que normalement, pour un détenu quand même, de son profil, les fouilles doivent être régulières. On doit fouiller régulièrement la cellule du détenu. Ou alors, il y a eu des ordres pour ne pas fouiller sa cellule, je ne sais pas. Mais donc, l'inspection déterminera...
Généralement, si vous trouvez, vous, un détenu avec un portable, vous lui confisquez.
C'est confisqué, on informe le parquet et de plus, il doit être puni, même si les punitions sont très légères.
Au sein de l'administration.
Je dis pas ça, mais il y a quand même ici un dysfonctionnement et je crois que c'est nécessaire que l'inspection générale, c'est son rôle hein, de contrôler, de voir les dysfonctionnements et d'en faire un rapport ensuite, c'est à l'exécutif d'en tirer toutes les conséquences.
C'est ce qu'on doit aux familles des victimes. Bon, voilà. Il y a deux morts dans des conditions dramatiques.
Mais franchement, quand vous voyez cet individu. Effectivement, moi, quand j'étais directeur, j'ai eu dans ma prison des caïds, Ferrara et autres, et Kider. Quand il était transféré, bien sûr, on mettait l'escorte 4, c'est-à-dire les moyens pour éviter tout problème, mais notamment des évasions. Bon. Là, effectivement, les services pénitentiaires avaient eu l'information qu'il était très dangereux, qu'il avait commandité effectivement un meurtre, qu'il avait même demandé à ce qu'on achète un FAMAS, qu'il avait commencé à scier des barreaux d'une cellule à Évreux, je pense que l'escorte aurait été différente.
Elle aurait été beaucoup plus encadrée, en tout cas mieux sécurisée.
Sur les brouilleurs, un mot, ça fait partie des décisions qui ont été prises quelques jours après ce drame. Mmh. Par le ministre, après qu'il ait fait des concertations avec les organisations syndicales.
Oui.
Les brouilleurs, aujourd'hui, il y a 18 établissements qui sont complètement couverts par les brouilleurs. D'ici fin 2025, on passe à 38, donc 20 de plus. Sur le décloisonnement de l'information, c'est précisément ce que cherche à faire Éric Dupond-Moretti. Il l'a fait en matière de lutte contre les violences intrafamiliales.
Il y aurait besoin de quoi pour plus de partage d'informations?
Eh bien,
alors
c'est précisément les questions qui vont être posées à l'inspection. Décloisonner, s'il y a besoin, le partage d'informations pour faire en sorte que des informations sur la dangerosité d'un détenu soient transmises en temps utile au bon endroit.
Et ça veut dire quoi, pardon, décloisonner?
Eh bien, ça veut dire, quand vous avez une sonorisation, comme on l'a rappelé, c'est dans le cadre d'un dossier judiciaire, découvert par le secret de l'instruction. Cette sonorisation, le contenu des écoutes, des sonorisations, est transmis au juge d'instruction qui est chargé du suivi du dossier. Donc, une des questions, ça pourrait être de savoir dans quelle mesure les informations sur la dangerosité d'un détenu, sur des risques d'évasion, peuvent être transmises au chef d'établissement.
Et est-ce que vous allez demander des comptes, justement, aux juges d'instruction qui ont eu connaissance de ces informations par le biais de ces sonorisations et qui n'ont averti personne ?
Alors, je rappelle que c'est une inspection de fonctionnement qui ne s'intéresse pas aux décisions juridictionnelles. Les questions qui vont être posées, c'est qui a eu l'information, comment est-ce qu'elle a été transmise, est-ce qu'elle a été transmise rapidement, et ce sont les questions qui vont être posées aux inspecteurs qui vont ensuite faire des préconisations dans les prochaines semaines.
Mourad Batik, c'est vrai que c'est la question qui se pose, que disait Charles, il y a une enquête en cours, une instruction en cours, et donc est-ce qu'il va falloir révéler ces informations au fur et à mesure de l'instruction?
Je crois qu'il y a deux questions qui se posent autour des déclarations du ministre de la Justice, du garde des Sceaux. C'est de savoir s'il y a eu un dysfonctionnement structurel ou conjoncturel. Je pense que conjoncturellement, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Et je vais à rebours de ce qui est dit et de ce que tout le monde pense. Mais en réalité, la justice, elle a bien fonctionné autour de M. Amra et personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. Il y a une instruction qui est ouverte à Marseille. La juge d'instruction sonorise à juste titre la cellule de Monsieur Amra. Et donc, quand on sonorise une cellule, on va évidemment pas agiter un chiffon rouge, on va évidemment pas dire qu'on est en train de sonoriser une cellule, et on va évidemment pas confisquer les téléphones portables, puisque ça viendrait tout de suite contraindre l'enquête en cours et les investigations en cours. Donc, évidemment que la juge d'instruction, elle laisse Monsieur Amra
parler au téléphone.
Malgré
l'ampleur des crimes qu'il commet depuis
Mais
sa
bien
cellule.
Bien sûr, elle a besoin de preuves, elle a besoin de compiler un certain nombre de preuves pour le renvoyer devant un tribunal correctionnel, devant une cour d'assises. Donc, elle va le laisser parler, le laisser avancer pour compiler un maximum de preuves. Et au moment où elle estimera qu'elle a suffisamment de preuves accablantes, concordantes, eh bien, évidemment, à ce moment-là, elle le topera pour utiliser un mot que tout le monde connaît. Et donc, ça, finalement, ce partage d'informations, il ne peut pas avoir lieu, parce qu'à partir du moment où elle partage l'information, elle peut faire péricliter toute son instruction.
Mais et le donc, problème là, c'est que l'impact que ça a eu, c'est une escorte sous-évaluée et donc le décès de deux agents pénitentiaires.
Oui, mais ça, on peut faire de l'anachronisme et regarder dans le passé et se dire qu'au regard de ce qui s'est passé présentement, on aurait pu faire mieux. Ça, c'est toujours l'éternel débat. La seule question qui se pose, c'est est-ce que au moment où elle sonorise la cellule et où effectivement on est sur quelqu'un de moyenne envergure à ce moment-là, qui globalement continue à traficoter à l'extérieur et qui essaye de piloter ici et là des points de deal, est-ce qu'à ce moment-là, elle pouvait imaginer que ce détenu-là pouvait être impliqué dans ce qui s'est passé de dramatique? Je pense qu'il faut revoir le dossier avec une bonne frise chronologique. La deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, sur laquelle Monsieur Dupond-Moretti a rebondi, c'est sur les conditions de détention. Et ça, en revanche, il y a un vrai dysfonctionnement structurel cette fois. Alors, on est tous étonnés que du cannabis entre dans les détentions, que des téléphones portables entrent en prison. Et ça n'est étonnant que pour ceux qui ne connaissent pas la détention. Parce qu'en réalité, j'y dirais presque de manière un peu provocatrice, heureusement qu'il y a du cannabis qui rentre en détention. Parce que quand vous êtes entre 4 et 6 dans une cellule enfermée 22 heures sur 24 et où peut-être la moitié des détenus dorment par terre, bah évidemment.
Enfin, on va sur un autre sujet. Bah,
c'est le sujet des téléphones portables, c'est le sujet du cannabis.
Là, on commandite des crimes, on organise des crimes depuis est quand même sur autre chose.
Je voudrais intervenir parce que quand vous dites on a sonorisé parce que le détenu avait des portables, ce qui voulait dire que quand vous écoutez, ça veut dire que les services pénitentiaires avaient autorisé à ce que ce détenu ait des portables. Ça veut dire qu'ils étaient informés qu'il y avait des portables, alors que c'est interdit. Donc il y a quand même un sujet qu'on doit se poser. Parce que moi, j'ai vu effectivement des juges d'instruction demander de sonoriser les cellules, il n'y avait pas de portable à l'intérieur. Parce que les détenus parlaient avec un co-détenu. Parce qu'effectivement, il y avait quand même des discussions qui pouvaient intéresser les juges d'instruction. Mais autoriser... la sonorisation, effectivement, c'est une décision d'un magistrat instructeur. Mais si effectivement, on sait qu'il y a des portables à l'intérieur... Ça veut dire que les services pénitentiaires ont autorisé pour ce détenu de posséder des portables. Moi, ça me pose problème. Oui, ça me pose question quand même.
Est-ce qu'il est envisageable est-ce que vous avez tout ce qu'il y avait sur ces écoutes aujourd'hui là, et est-ce qu'il est envisageable qu'il y ait une partie de son évasion qui a aussi été organisée? Parce qu'on voit pas bien. Si sa cellule était sonorisée, son évasion, ils n'entendent rien
En fait, il y a plusieurs étapes. Mourad Batik, il a raison. L'étape à la santé, où il fait l'objet d'une instruction de Marseille sur l'assassinat, celle-là, elle est secrète. C'est vrai qu'il y a une petite mauvaise foi, parce que la juge, à la fois, elle fait sonoriser la cellule, et à la fois, comme ils ont vendu des numéros de téléphone portable qu'il utilise, il les écoute. C'est de bonne guerre. Toute cette période, elle est secrète. La juge, elle amène Amra à Marseille pour le mettre en examen. Quand elle a tous les éléments, il est mis en examen pour une ribambelle de choses qui lui vaudrait perpète devant un tribunal, notamment complicité d'assassinat avec séquestration. Donc, en réalité, cette fois-ci, il change de prison, il arrive au Baumettes, et elle demande à ce qu'il soit mis à l'isolement.
C'était bien,
jusque
une bonne
là,
décision.
Jusque-là, c'est logique. Ouais. Là où ça devient complètement illogique, c'est qu'il est transféré à Évreux pour être jugé dans une vieille affaire qui remonte à sa vie d'avant trafiquant, puisque c'est des vols de boulangerie, de commerce, etc. Il a ce rendez-vous judiciaire à Évreux. Donc, il faut le transférer de Marseille à Évreux. Alors là, je n'ai pas la réponse à la question. Je sais que des syndicalistes ici disaient qu'il était en niveau 2 quand il a fait le transfert de Aubagne.
Il y a combien de niveaux, rappelez-nous?
Ce qui serait une hérésie.
Quatre niveaux.
Ce qui serait une hérésie, pourquoi? Parce que s'il était en niveau 2, ça veut dire qu'il est venu de Marseille à Évreux en avion de ligne, avec un ou deux surveillants pénitentiaires. Quand on connaît le profil, pas besoin d'épiloguer ce dont il est capable, c'est vrai que c'est un peu une mauvaise appréciation des choses de l'avoir fait voyager en avion de ligne. Mais je ne sais pas. Oui, mais moi... Toujours est-il qu'il arrive à Évreux et là, il change de prison. Et là, ça dysfonctionne aussi à Évreux. Parce qu'à Évreux, d'ailleurs, pendant le mois où il est à Évreux, les surveillants notent la présence de drones au-dessus de la prison. Il n'en avait jamais vu, la prison d'Évreux, des drones. Ça, plus bout à bout, l'assillage des barreaux, là, la prison d'Évreux le place à l'isolement le dimanche. Et il y a un rapport de l'administration pénitentiaire le dimanche soir à 22h, il y a un surveillant qui l'entend dire par la fenêtre de la prison d'Évreux, à l'isolement, hein, j'ai besoin d'un téléphone. Il est 22h le dimanche soir. Le lundi matin, il est transféré, ou le lundi soir, je confonds les jours, il est transféré le lendemain matin pour Rouen et la fusillade d'Incarville. Quand ils reviennent de la fusillade d'Incarville, ils vont fouiller sa cellule à l'isolement. Et là, ils trouvent un téléphone. Ça veut dire qu'Amra, à la prison d'Évreux, il a été capable, à l'isolement, entre 22h et 6h du matin, d'obtenir un téléphone.
Mais alors ça, pardon,
ça, ça va faire partie de la solution.
Quelles sont les hypothèses possibles là-dessus?
On voit très bien que le fait que le juge d'instruction ait demandé à l'isolement, l'administration pénitentiaire doit appliquer.
Ça ne suit pas.
Le fait qu'on trouve un téléphone portable, alors ça, il faut vérifier, mais c'est ce que vous dites, dans une cellule d'isolement, c'est quand même très grave. Parce que c'est pas par-dessus les murs à l'isolement, le détenu est seul en cellule, il est seul en cours de promenade. Promenade très sécurisée. Donc il y a des fouilles systématiquement dans la cellule en question et dans la cour de promenade, il est seul. Donc là, il y a quand même une question. Et donc, il y a, je crois, quand même une insuffisance dans le fonctionnement. Donc, je crois que ce sera le rôle de l'inspection générale.
C'est la prise en charge,
mais d'une
la
manière,
prise en charge du détenu. D'une, je ne pense pas d'une qu'on manière, puisse se satisfaire de ce qui s'est passé. Non. On peut pas, il y a eu deux morts. Mais, deux de nos agents pénitentiaires sont morts. La moindre des choses que l'on doit à leurs victimes, c'est de faire toute la lumière sur la prise en charge et d'essayer d'améliorer les choses si des choses doivent être améliorées, de faire évoluer les textes au besoin. À l'automne, le ministre Éric Dupond-Moretti a dit qu'il allait avoir un projet de loi sur la criminalité organisée. Si l'inspection fait des préconisations dans le sens d'une évolution des textes, ça pourra être introduit, nourri, ça pourra nourrir ce projet de loi. L'objectif, c'est de sécuriser les établissements. Il y a des agents qui sont blessés. C'est la moindre des choses qu'on doit à leur famille.
Mais la police, selon vous, a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé?
Faut attendre l'inspection.
L'inspection ne concerne que le ministère de la Justice. Oui. C'est une inspection de fonctionnement qui est diligentée par une équipe d'inspecteurs et qui concerne que le ministère de la Justice. Voilà, ce n'est pas une inspection interministérielle.
Si vous voulez, malheureusement, le mal endémique est là. On a des milliers de portables qui rentrent dans les prisons. On a effectivement des kilos de drogue qui rentrent dans les prisons. C'est un problème majeur. Et en plus, une surpopulation pénale qui ne permet pas aux surveillants de travailler dans des bonnes conditions. Ils ont du mal à contrôler parce qu'il y a, quand vous avez 3 détenus dans une cellule, c'est difficile à contrôler. En plus, de dire il faut laisser la drogue, je vous rappelle que c'est les caïds qui se renforcent en prison. Quand vous avez, et les détenus les plus faibles, ils s'affaiblissent. Et vous avez des détenus très fragiles psychologiquement.
Personne ne peut laisser rentrer la drogue.
Et donc,
pas une bonne chose.
Justement,
je dis juste, je constate.
Il faut lutter.
Constate ce que je vois au quotidien.
Et pour lutter contre le trafic de drogue, on a des possibilités.
Des équipes cynotechniques.
Absolument. On a des portiques, des scanners qui coûtent très cher, mais qui sont quand même relativement efficaces. On en a équipé quelques maisons centrales, mais pas suffisamment. Il y avait déjà un premier volet sécuritaire qui avait été fait, je crois, par Jean-Jacques Urvaz à l'époque, qui était garde des Sceaux. Donc il faut continuer.
Dans ce qui a été décidé le 15 avec les organisations syndicales, c'est de une équipe cynotechnique. Si ce sont des chiens détecteurs de stupéfiants dans chaque établissement.
Tout à fait. Parce que, en fin de compte, quel est le sens de la peine? Quand vous voyez que des détenus qui ont fait du trafic de drogue continuent leur trafic dans la prison, quand vous voyez des détenus qui sont violents, qui continuent à violenter soit leur co-détenu parce qu'ils jouent au caïd, quel sens on donne à la peine? Moi, c'est une question que je me pose profondément.
C'est un peu les rois de la prison, ces gens-là, les narcotrafiquants.
Le code pénal de 1792, le rapporteur, c'était le petit de Saint-Fargeau. Il avait dit la prison doit rendre meilleur le détenu. Oui. Mais on est très loin actuellement.
Mais
on est très loin.
Quand la Troisième République a construit la prison de la Santé, qu'on a détruit pour rénover, là. La prison de la Santé, elle avait l'eau courante et les sanitaires dans chaque cellule. Oui. C'était plus luxueux à l'époque que tous les appartements environnants. Oui. Parce que la Troisième République considérait que la prison de la Santé, c'était un endroit pour rendre les gens meilleurs.
Le budget de la rénovation des prisons a doublé. Il a été doublé en ce moment. C'est 130 millions d'euros.
Vous pouvez pas rendre...
il y a 5 ans, c'était la moitié.
Voilà. Vous ne pouvez pas rendre les gens meilleurs à 4, 6 bien dans sûr. Des cellules surpeuplées, avec évidemment de la violence, avec évidemment des conditions qui sont dénoncées par toutes les instances européennes et internationales. Alors, on peut se dire qu'une fois qu'on a commis une infraction et qu'on est détenu, il faut traiter les gens comme des animaux et comme des chiens. Ça peut être un avis qu'on peut avoir. Mais la réalité, c'est qu'on les en les maintenant dans ces conditions-là, dans lesquelles ils sont actuellement en France, et la France est tout sauf un exemple à ce titre-là, et bien évidemment, vous ne pouvez pas demander à ces gens-là de ressortir meilleurs, puisque le terme a été utilisé à de nombreuses reprises sur ce plateau. Il faut évidemment aussi réformer complètement les conditions de détention. Et je ne parle pas du tout de quelque chose...
Mais là, on parle encore une fois, Mourad Batik, on parle de quelqu'un qui organisait des crimes depuis sa cellule. On est quand même sur un autre cas de figure.
Oui, là, moi, je parlais de la manière dont les gens étaient détenus en France. Maintenant... Sur le cas de Monsieur Amra, encore une fois, si les téléphones portables entrent dans sa cellule et si effectivement il peut commanditer, il peut organiser depuis sa cellule, à mon sens, ça n'est qu'une tactique, ça n'est qu'une technique policière et du magistrat instructeur pour lui permettre d'avancer, de collecter un maximum de preuves pour le renvoyer in fine devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises.
Vous dites en gros, il n'y a pas de couac dans cette affaire. Tout a bien fonctionné.
Alors, je ne peux pas dire ça au regard de ce qui s'est passé.
Ce serait un petit peu indécent.
En revanche, je dis simplement que ce mécanisme de sonoriser une cellule et d'attendre que la personne avance dans l'itère criminaliste, dans le chemin criminel, c'est quelque chose qui se fait
au
quotidien.
C'est la procédure. Juste à vous entendre, on a un peu l'impression que ce genre de détenus, les narcotrafiquants, c'est eux qui font la loi en prison. C'est eux qui décident.
Ils ont beaucoup d'influence justement sur des détenus qui sont très fragiles psychologiquement. Beaucoup d'influence, effectivement. Et le Qaïda reprend beaucoup de force actuellement dans les prisons. Il y a la surpopulation, mais il y a également le phénomène des narcotrafiquants qui n'existaient pas il y a 20 ans ou 30 ans et qui se renforcent de jour en jour, comme on le voit également dans des quartiers populaires de nos villes. On a également les trafics de stupéfiants qui se développent avec les conséquences qui sont désastreuses.
Mais vous dites, ils ont de l'influence sur les détenus plus fragiles, ils ont aussi de l'influence sur les surveillants, parce qu'ils
ont de l'argent, tout simplement. Parce qu'ils rendent des services. Parce qu'ils peuvent cantiner pour d'autres détenus. Donc,
mais est-ce que parce que pour se procurer un téléphone portable, c'est quoi ? C'est les surveillants qui ont dû lui en donner ?
Alors, écoutez, là, je peux pas. Il y a eu de la corruption parfois, mais il faut pas non plus généraliser. C'est très minoritaire.
Les chiffres, pardonnez-moi. Les chiffres sont assez simples à dire. Les 6 dernières années. 20 saisines de la commission de discipline nationale pour des surveillants pour du trafic. 20 uniquement. Sur les six dernières années, il y a eu des révocations, des révocations plus de 8 fois sur 10. Donc, il y a une sévérité de l'administration pénitentiaire lorsque ce type de fait est constaté. Et le fait est qu'il y a une,
mais il y a une omerta
sur les dernières années. Et les signalements sont immédiatement transmis au parquet.
Lorsqu'il y a un soupçon, je suis magistrat.
J'ai été à l'exécution des peines pendant 15 ans, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Lorsqu'il y a le moindre soupçon de corruption, le chef d'établissement transmet un signalement au parquet.
Mais il y a une omerta totale sur ce sujet, c'est pas vrai. Vous avez un certain nombre de surveillants qui touchent de l'argent de la part des trafiquants pour rendre des petits services. C'est quelque chose qui existe. Et s'il y a si peu de sanctions, comme vous le dites, c'est tout simplement parce que ça ne remonte jamais jusqu'au niveau de la sanction.
Je suis pas trop d'accord, mais c'est quand même une réalité. Non, non, mais écoutez,
ça atteint jusqu'au greffier.
C'est une réalité qui n'a apparemment pas établie. Demande-toi comment
la drogue rentre, comment je ne jette pas l'opprobre sur tous les surveillants. Je vous dis que, vu la proportion de produits stupéfiants, de téléphones, parfois d'informations dont disposent des gens à l'extérieur, ou même des détenus à l'intérieur qu'ils ne devraient pas avoir... Demandez-vous d'où ça vient. Il y a des faits de corruption en France, c'est vrai. Et on sait maintenant que même parfois des greffiers
Il y a aussi des surveillants dans les voitures brûles qui sont menacés.
C'est vraiment à la marge, je peux vous assurer. Enfin, moi, j'ai dirigé quand même les plus grosses prisons françaises. on était très sévère lorsqu'on avait des soupçons, il y avait des enquêtes qui étaient faites et il y avait effectivement des sanctions qui tombaient, c'était des suspensions d'ailleurs au niveau de l'administration. Donc, je dis pas que ça existe pas, bien sûr, parce qu'on a eu malheureusement des faits, mais il faut pas non plus généraliser. La drogue, on sait comment ça rentre d'une manière massive. Ça rentre surtout par les parloirs. Il faut le dire.
Oui. Un dernier mot, il est toujours en fuite, lui et ses complices.
Il est toujours en fuite, depuis deux semaines, notamment un de ses complices qui est très activement recherché, là, qui est le tueur de Marseille, qui est potentiellement un de ses complices de l'évasion d'Incarville. Et c'est vrai qu'il faut revoir le logiciel de la dangerosité de ces détenus. Puisque jusqu'à présent, on pense que les détenus complexes au niveau 4, ce sont simplement les terroristes, le grand banditisme, etc. Là, il y a une population carcérale assez jeune, assez riche, hein, parce qu'elle dispose d'argent via le trafic de drogue très important. Cette population-là, elle est dangereuse en prison.
Question, il est possible qu'il soit à l'étranger, Mohamed Amra, ou avec tout le dispositif qui a été mis en place, a priori il est quelque part en France, mais il se planque bien alors.
Dans une première période, hein, c'est ce que pensaient les policiers à chaud, hein, c'est qu'ils avaient imaginé une première planque pendant laquelle ils se terreraient pendant X temps. Cette première planque-là, elle est, si c'est le cas, elle est pas très loin, elle est dans sa zone, il est de Normandie, il est... Le scénario un peu difficile, c'est si vous savez, la Normandie, c'est le port du Havre. La frontière normande, c'est le port du Havre. C'est vrai que s'il avait planifié une évasion, une cache dans un conteneur du port du Havre, les policiers auront du mal à le retrouver.
Merci beaucoup. Merci à tous pour ces informations. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau développement dans l'affaire Mohamed Amra. Merci à vous.